L'œil du gabion, l'info de Mars, de la pupille du goéland à l'oreille de la grenouille.
Violette, bonjour.
Bonjour Quentin, bonjour à tous.
Pour cette chronique de Mars Actu, tu es venu accompagné, à côté de toi, il y a Laurent Rigaud. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes éducateur spécialisé et depuis bientôt 2 semaines, vous publiez dans Mars Actu, tous les 2 jours, des textes sur votre quotidien d'éducateur spécialisé, sur lequel on va prendre le temps de s'arrêter. Mais d'abord, Violette, raconte-nous comment cette collaboration s'est construite entre vous et sur quoi elle va déboucher ce week-end surtout.
Alors, un jour, Laurent est venu à la rédaction. Un midi, il est entré dans notre rédaction et on s'est tous assis autour d'une table. Il avait l'air d'être un mec engagé, passionné par son métier, mais surtout, malgré son air impassible, pas mal révolté. Laurent, vous l'avez dit, il est éducateur spécialisé et son métier, dans l'imaginaire collectif du moins, c'est de mettre des cadres. Sauf que lui, les cadres, il aime bien les bousculer jusqu'à parfois même se mettre en porte-à-faux. Bref, il nous explique qu'il a commencé à écrire des choses sur son métier, sur ses rencontres avec les familles qui sortent du cadre. Il nous dit qu'il a envie de les raconter dans Mars Actu. Et ben nous, à la rédac, on lit ses textes, chacun porte déjà un titre, ça s'appelle « Le cul sur la chaise » par exemple, c'est l'histoire de sa rencontre avec un futur guetteur, ou encore « Assumption ». Il nous raconte la vie de cette maman espagnole, gitane, ancienne toxicomane et qui garde ses enfants cloîtrés chez elle. On les lit, et tous, on est séduits. Ces rencontres, en fait, c'est la face cachée d'un monde qu'on ne veut, ou tout du moins qu'on ne peut pas voir. Laurent, lui, il rentre dans l'intimité de ceux qu'on relègue dans les marges, les périphéries, hors du cadre, quoi. Il entre dans leur quotidien et ça, nous, journalistes, on n'a pas vraiment la légitimité pour le faire. Lui, éducateur spécialisé, à la limite, comme il se définit, il le fait sans jugement et sans jamais cesser de se questionner. Et ça, ça nous plaît à Mars Actu. Et comme on a pensé que ces textes, ils pouvaient aussi plaire à nos lecteurs, on les a publiés, il y en a 7 en tout. Et à partir d'aujourd'hui, ils sont en accès libre sur marsactu.fr.
Et pour ceux qui voudraient pousser la réflexion encore plus loin, il y a aussi un rendez-vous demain.
Oui, demain, avec l'équipe de Mars Actu et Laurent, on sera au Théâtre de l'Œuvre. On vous y donne rendez-vous à 20h pour assister à une conférence gesticulée qui sera menée par Laurent. C'est un spectacle entre le cours magistral et la pièce de théâtre, encore un truc qui sort du cadre. Ça s'appelle le Radis de Pâques, mais ça, Laurent vous l'expliquera mieux que moi. En tout cas, pour Mars Actu, c'est le début d'une nouvelle aventure. On sort des internets, comme on dit, et on s'inscrit dans le réel. Cette conférence gesticulée, ça va être le premier événement d'une série, toujours au Théâtre de l'Œuvre, qui aura pour but de porter le débat public dans l'espace public.
Est-ce qu'il faut réserver pour venir vous voir?
Oui, c'est mieux, hein. On a fait une page Facebook et on peut réserver directement via la page.
Super, merci beaucoup Violette. Alors Laurent, le Radis de Pâques, c'est le nom de votre conférence gesticulée. Pourquoi ce titre?
Le radis de Pâques, en fait, c'est ce légume qui rentre dans aucune préparation et donc qui nous oblige à réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire avec, puisque si on est habitué, par exemple, à faire du pot-au-feu, ben, on se rend compte que le radis de Pâques ne rentre pas dans cette préparation-là. Et donc, on est obligé d'inventer une nouvelle cuisine à partir de ce radis. Donc, le radis, bien évidemment, de Pâques, représente les enfants que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon métier, de ma profession, et auxquels je me suis confronté et qui m'ont fait me poser beaucoup beaucoup de questions et qui m'ont repoussé dans mes limites et qui ont fait qu'il a fallu que j'invente mon métier au quotidien et que je trouve de nouvelles façons d'opérer, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qu'une conférence gesticulée?
Une conférence gesticulée, bon, pour la faire simple, c'est un spectacle politique, en fait, en opposition à ceux qui font de la politique spectacle, on pourrait dire, voilà. Donc c'est un spectacle politique, c'est un cours. Ça, on est d'accord là-dessus. Et puis, il y a toute la gesticulation. Alors, la gesticulation, c'est toute la part de subjectivité que je vais mettre dans ce cours, toute la part d'émotionnel que je mets dans ce cours. Et en fait, c'est m'autoriser à donner un avis sur la société dans laquelle je vis. C'est un cours dans lequel on s'autorise à donner un avis sur la société dans laquelle on vit. Et il y a donc du cours, mais il y a aussi du théâtre, en fait. Voilà, c'est un peu ça.
Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de cette conférence que vous avez déjà donnée à Marseille, je crois.
Je fais donc ce constat étrange que le radis de Pâques a la faculté de me rendre plus intelligent. En fait, quand j'accepte de perdre un tant soit peu le contrôle sur le cours des choses, eh bien je deviens plus intelligent. Wow. À mon échelle, c'est une véritable révolution copernicienne. Tout à coup, je découvre que la Terre tourne. Alors, pour en revenir au sujet de ce soir, je me demande s'il n'en va pas de même en matière d'éducation. Et si, au bout du compte, tout cela n'était qu'une histoire de contrôle. Et si, depuis le début, nous pensions l'éducation à l'envers. À savoir que l'éducation, dans sa visée la plus haute, serait de permettre à l'autre d'exprimer ce qu'il est, et nous passons notre temps, en guise d'éducation, à dire à l'autre ce qu'il faudrait qu'il soit.
Dire à l'autre ce qu'il faudrait qu'il soit, c'est ça la pratique dominante dans l'éducation, dans le secteur social en ce moment ?
Bah, je pense qu'en fait c'est le risque auquel on est confronté en tant qu'éducateur, et si on n'en a pas conscience, ça peut être dangereux, parce que le risque premier en éducation, c'est de vouloir, on va dire, conformer l'autre à notre image, à ce qu'on attend de lui, et donc plutôt que d'éduquer, on peut des fois juste se contenter de socialiser et se faire en sorte que les gens rentrent dans les normes de la société, sans interroger ces normes de la société. Et donc ça, c'est assez dangereux, en fait. Ouais, ouais.
Parlons d'abord un peu de votre métier, de son quotidien que vous racontez sur Mars Actu depuis quelques jours. Quelle est la mission d'un éducateur spécialisé et quelle est la vôtre, en l'occurrence ?
La mission d'un éducateur spécialisé, elle est multiple, hein. Alors, on va dire, il est coutume de dire qu'on a... Que notre fonction, c'est d'intervenir auprès des personnes, on va dire, un petit peu fragilisées. Moi, en l'occurrence, là, c'est la protection de l'enfance. Donc, c'est quand des enfants sont repérés comme potentiellement en danger au domicile, chez eux. Donc, il y a un signalement souvent qui est fait. Puis, il y a un juge des enfants qui notifie qu'un service éducatif doit intervenir auprès de l'enfant et auprès de la famille. Donc, c'est ce que je fais. Je vais à domicile chez les gens pour voir un petit peu comment ça se passe et pour essayer d'entendre la parole de cet enfant. C'est pour moi le cœur du métier, quoi.
Seulement la recueillir, qu'est-ce que vous en faites de cette parole après ?
Ben déjà la recueillir, c'est déjà beaucoup, parce que c'est pas facile de faire en sorte que les gens puissent être en confiance pour se livrer, justement, et justement plutôt que de vouloir faire rentrer les gens dans le cadre, déjà voir ce qu'ils ont à dire, et un enfant quand il s'exprime, s'il commence à vraiment parler, alors là il y a des choses riches qui commencent à sortir. Vraiment le travail, oui, c'est pas tant de la recueillir, mais c'est en tout cas faire en sorte qu'elle puisse exister. Voilà, ça je pense que c'est primordial pour moi, avant de finalement de se dire trouvons des solutions, d'abord posons bien le problème en fait.
Ce métier, vous avez eu besoin d'écrire à son propos à un moment. Il y a des récits très forts, très touchants. Je pense à celui d'Assomption, notamment, que tu évoquais, Violette, plutôt. Pourquoi écrire à ce propos, et pourquoi surtout publier ce que vous avez écrit ?
Ben, en fait, moi, ce qu'il y a, c'est qu'on est amené dans notre travail à faire des écrits professionnels, mais qui, en fait, à mon sens, déshumanisent le métier. Moi, depuis maintenant 20 ans que je fais ce métier, je me rends compte que c'est des rencontres que j'ai faites. Alors, j'en ai raté pas mal, hein, je pense, justement, quand j'étais juste un hyper socialisateur, je pense que j'ai raté beaucoup de rencontres. Mais depuis que je vais chez les gens comme ça, que je suis en milieu ouvert, à domicile, eh ben, je rencontre les gens en tant qu'humain. Et puis, donc, j'ai eu envie de le raconter, en fait. J'ai eu envie de le raconter pour essayer de parler plus de rencontre d'humain à humain que de cette relation asymétrique en fait entre l'éducateur qui aurait un savoir et qui arrive avec toute une mallette d'outils et qui va dire vous êtes malheureux, vous inquiétez pas, j'ai des solutions pour vous. Moi, ce que je privilégie aujourd'hui, c'est la rencontre, et oui, j'ai voulu en témoigner, oui, par l'écrit. Oui.
Est-ce que vous attendez que ça provoque quelque chose sur les gens qui vont lire ces témoignages ?
Oui, j'espère. En fait, bon, pour être tout à fait sincère, si j'écris, c'est parce que j'ai envie d'être lu, en fait, quand même. Et oui, j'espère que ça provoque quelque chose. En tout cas, moi, déjà, ça me fait du bien de pouvoir le faire, de pouvoir écrire. Mais après, si c'est lu, c'est tout bénef, et tant mieux si en plus les gens sont touchés, oui.
Vous interrogez beaucoup le cadre dans ces articles. Je vous cite: un métier où l'on cadre, encadre, recadre. Le cadre est aussi un miroir qui se réfléchit. Quels sont ces cadres qui vous interrogent, voire qui vous dérangent le plus aujourd'hui ?
C'est une question. Oui,
il y avait des cadres institutionnels, j'imagine, des cadres de pensée.
Oui, il y a le cadre institutionnel, mais moi, enfin, celui que je pense que le premier cadre, en fait, qu'il faut questionner, justement, puisque en tant qu'éducateur, je suis dans la relation directe à l'autre. C'est celui avec lequel on arrive soi-même, quoi. Et je pense que le premier combat, il est là, c'est d'interroger ses propres valeurs, son propre cadre, qui fait que je vais imposer à un moment donné à l'autre dans son éducation, quand je lui dis non, parce que finalement éduquer ça revient à dire non, au nom de quoi je dis ce nom, et je pense que c'est ce premier cadre-là qui est à interroger. Et en fait, tous les cadres institutionnels qui ou politiques qui sont posés aujourd'hui, en fait, sont faits par des gens qui peut-être des fois ne se posent pas la question de leur propre cadre à eux et de leur propre représentation. Et c'est là qu'est le danger.
Les premiers épisodes dressent un portrait de Marseille, de sa misère, de ses quartiers nord, de la violence des hommes contre les femmes, des enfants qui dealent. C'est un portrait très noir. Est-ce que vous pensez qu'on sous-estime la situation de cette ville ?
Alors ça, je sais pas si on la sous-estime, mais en tout cas, je sais qu'il y a des quartiers qui sont complètement sacrifiés. Alors les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, elles sont sûrement multiples. Hein. Je pense qu'il y a des anthropologues, des sociologues, des philosophes, hein, beaucoup de personnes qui pourraient, peut-être qu'on écoute de moins en moins, mais qui ont sûrement un avis sur la question. Mais oui, je pense qu'il y a des quartiers qui sont sacrifiés complètement, oui. Notamment, il y a une cité dans laquelle on intervient, qui est la cité Corot. C'est une cité qui est fortement dévastée, oui.
Et puis, dans les épisodes suivants, vous critiquez un système, des institutions, la justice par exemple. À quel endroit est-ce qu'elle échoue, la justice, par rapport aux enfants notamment ?
Je la critique, disons que je l'égratigne un peu, mais parce que pour le vivre au quotidien...
C'est sévère quand même, il faut lire cet épisode.
Je me suis pas vraiment rendu compte en l'écrivant, mais disons que, pour le vivre... Bon, c'est là, on est persuadé, on pense que parce qu'il y a la justice, les problèmes vont se régler. Et c'est ça surtout que je voulais mettre en avant. Et en fait, non, quoi. Et c'est toujours pareil. On croit qu'on va régler les choses par un article de loi ou quoi. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des lieux, à mon avis, où on se parle pas assez, où on fait un peu semblant. Chacun tient son rôle un peu, mais des fois, c'est de la mise en scène un petit peu. Donc, je pense que là, ça, voilà, on n'est pas authentique, pas toujours.
Il y avait cette idée de mise en scène, mais il y avait aussi cette idée d'inégalité de la justice avec des majuscules qui se prend au sérieux et qui méprise finalement les gens, les enfants de ces quartiers.
Oui, voilà, c'est ça. Comme dans l'article Le glaive et la balance, effectivement, quand j'écris moi au tribunal pour enfants, il faut mettre des majuscules à T, il faut mettre des majuscules à E. C'est Madame le juge des enfants, il y a des majuscules. Effectivement, de suite, ça en impose. Oui, ça en impose beaucoup. Après, il faut quand même relativiser. C'est-à-dire que quand on est en audience auprès d'un juge des enfants avec un enfant, c'est pas les tribunaux, qu'on voit à Hollywood, quoi. C'est une salle, il y a un bureau. Bon, c'est assez. Le juge n'a pas sa robe, puisque là on est dans la protection de l'enfance, on n'est pas dans le pénal, quoi. Mais effectivement, il y a quelque chose, une espèce de déférence. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai été embauché, le directeur de l'embauche m'avait dit « Sachez que nous sommes dans une position basse par rapport au juge ». Donc c'est vrai que ça m'avait quand même questionné, qu'on me le pose comme ça d'entrée de jeu. Donc voilà, quoi.
Autre chose que vous remettez en cause, c'est le placement systématique des enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, systématique, pas vraiment systématique, mais disons que ce qui est sûr, c'est que c'est un métier où on peut être amené à demander des placements pour un enfant, parce qu'on estime qu'il est en danger chez lui. Bon, déjà là, il y a matière à réflexion, mais en fait, ce que j'essayais de mettre en avant dans cet article, c'est que là où je travaille, il y a des équipes qui vont être amenées des fois à placer plus que d'autres. Donc, la question mériterait d'être posée, pourquoi telle équipe place plus que telle autre équipe ? Et ça, c'est une question qui ne se pose pas, et c'est à mon avis dangereux, parce que c'est un peu une loterie, effectivement. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais la question, c'est comment ça se fait qu'il y en a qui le font plus et d'autres qui le font moins. Donc, et ça, c'est une question qui n'est pas débattue.
Et vous critiquez aussi la compassion pour les pauvres qui disent merci, je cite, et qui renvoient les autres dans les cordes. C'est du mépris, de l'infantilisation, d'une certaine manière.
Ben, en fait, il y a ça, c'est-à-dire que le métier d'éducateur, souvent renvoie une image plutôt positive. Hein, quand on dit qu'on est éduque de suite, bon, alors on nous dit oui, je pourrais pas le faire, et puis c'est positif, mais faut pas croire ça. Enfin, après, c'est un métier, et on peut des fois le faire mal, et on peut aussi des fois faire mal. Et c'est vrai que il y a quand même quelque chose dans le métier qui s'est installé, qui est là, c'est que on n'aime pas trop quand une famille nous renvoie dans les cordes ou nous insulte. On préfère qu'elle nous dise merci. Alors que justement, il faut aussi travailler avec le merde que va nous renvoyer une mère de famille, par exemple. Et je pense que le travail se fait aussi si elle nous dit merde. Mais si le seul truc qu'on a à lui dire, c'est « vous me parlez pas comme ça », on n'ira pas bien loin. C'est « qu'est-ce qu'il y a derrière ?» C'est toujours pareil. Je parlais de recueillir la parole. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette insulte qu'elle nous renvoie et qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Voilà, c'est ça surtout. Donc oui, effectivement, c'est le pauvre qui dit merci, oui.
Est-ce qu'en avant-première, on peut avoir une idée du sujet du dernier épisode apparaître sur Mars Actu ?
Oui, alors il va paraître demain, je crois.
Oui, c'est ça, demain.
Le titre, c'est « Je suis un homme normal ». Oui, et là, c'est une rencontre, en fait, avec une famille de gitans. Donc, je dirais pas... Enfin, ils sont derrière les Olives, dans un camp, le quartier des Olives, dans un camp. Et je parle de la rencontre avec cet homme, ce père de famille, qui est un homme libre, en fait. Et comment, quelque part, il est un petit peu prisonnier de l'institution, là, scolaire, pour le coup.
Eh bien, merci. Est-ce que vous accepteriez, pardon, de nous lire un extrait d'un de ces textes que vous avez écrits?
Bah, en fait, je vais vous lire les premières lignes du premier article, en fait.
Voilà. D'accord. Allez-y, on vous écoute.
La bouche de métro me crache sur l'esplanade. Je pourrais sortir à préfecture, mais comme chaque fois, bien que cela ajoute une station à mon trajet, je préfère la sortie Vieux-Port qui a l'avantage de présenter moins d'attente en bas de l'escalier roulant. Je passe sous le grand miroir et ne relève pas la tête. Je vais au bureau. Avec quelques notes soufflées dans son saxophone, ce musicien m'attrape le temps d'un passage et tout en cherchant le titre de ce standard, je regarde l'étal de poisson et m'interroge sur le juste prix du kilo de sardines. 6 €, c'est un peu cher à mon goût, mais la poissonnière a sûrement un autre avis sur la question. Il n'est pas évident de saisir la limite des choses, et si elle et moi regardons le même kilo de sardines, cela ne veut pas dire pour autant que ce que nous voyons soit identique. La limite, c'est mon rayon. Je passe mon temps à traverser des frontières, ne sachant pas toujours très bien de quel côté je dois me mettre. Il arrive même parfois que je sois à la frontière. J'arpente les rues de Marseille et me rends à domicile pour dire aux gens que la société existe en dehors de chez eux et qu'il est impossible de faire ce que l'on veut chez soi. Cela peut paraître étrange, mais c'est ma fonction.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci à vous.
Violette, est-ce que vous pouvez rappeler, si on veut en entendre plus à ce sujet, il faut venir où et quand?
Alors donc, c'est demain à 20h au Théâtre de l'Œuvre. Et le mieux, c'est de réserver parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait des places pour tout le monde. Sinon, à partir de maintenant, les articles sont en accès libre sur Mars Actu. Donc tout le monde peut les lire.
Merci à vous deux.
L'œil du gabion. L'info de Mars. De la pupille du goéland à l'oreille de la grenouille.